Lettre 106. Rédit à Usbek, à Paris. Tu m'as beaucoup parlé, dans une de tes lettres, des sciences et des arts cultivés en Occident. Tu me vas regarder comme un barbare, mais je ne sais si l'utilité que l'on en retire dédommage les hommes du mauvais usage que l'on en fait tous les jours. J'ai ouï dire que la seule invention des bombes avait ôté la liberté à tous les peuples de l'Europe. Les princes, ne pouvant plus confier la garde des places aux bourgeois, qui à la première bombe se seraient rendus, ont eu un prétexte pour entretenir de gros corps de troupes réglées, avec lesquels ils ont, dans la suite, opprimé leurs sujets. Tu sais que, depuis l'invention de la poudre, il n'y a plus de place imprenable. C'est-à-dire, Usbek, qu'il n'y a plus d'asile sur la terre contre l'injustice et la violence. Je tremble toujours qu'on ne parvienne à la fin à découvrir quelques secrets qui fournissent une voie plus abrégée pour faire périr les hommes, détruire les peuples et les nations entières. Tu as lu les historiens. Fais-y bien attention. Presque toutes les monarchies n'ont été fondées que sur l'ignorance des arts et n'ont été détruites que parce qu'on les a trop cultivées. L'ancien empire de Perse peut nous en fournir un exemple domestique. Il n'y a pas longtemps que je suis en Europe, mais j'ai ouï parler à des gens sensés des ravages de la chimie. Il semble que ce soit un quatrième fléau qui ruine les hommes et les détruit en détail, mais continuellement, tandis que la guerre, la peste, la famine les détruisent en gros, mais par intervalles. Que nous a servi l'invention de la boussole et la découverte de tant de peuples, qu'à nous communiquer leurs maladies plutôt que leurs richesses? L'or et l'argent avaient été établis par une convention générale pour être le prix de toutes les marchandises et un gage de leur valeur, par la raison que ces métaux étaient rares et inutiles à tout autre usage. Que nous importait-il donc qu'ils devinssent plus communs, et que pour marquer la valeur d'une denrée, nous eussions deux ou trois signes au lieu d'un? Cela n'en était que plus incommode. Mais d'un autre côté, cette invention a été bien pernicieuse aux pays qui ont été découverts. Les nations entières ont été détruites, et les hommes qui ont échappé à la mort ont été réduits à une servitude si rude que le récit en fait frémir les musulmans. Heureuse l'ignorance des enfants de Mahomet. Aimable simplicité, si chérie de notre saint prophète. Vous me rappelez toujours la naïveté des anciens temps et la tranquillité qui régnait dans le cœur de nos premiers pères. De Venise, le 5 de la lune de Ramazan, 1717. Lettre 107. Usbek à Rédi, à Venise. Ou tu ne penses pas ce que tu dis, ou bien tu fais mieux que tu ne penses. Tu as quitté ta patrie pour t'instruire, et tu méprises toute instruction. Tu viens pour te former dans un pays où l'on cultive les beaux-arts, et tu les regardes comme pernicieux. Te le dirai-je, Rédi, je suis plus d'accord avec toi que tu ne l'es avec toi-même. As-tu bien réfléchi à l'état barbare et malheureux où nous entraînerait la perte des arts? Il n'est pas nécessaire de se l'imaginer. On peut le voir. Il y a encore des peuples sur la terre chez lesquels un singe passablement instruit pourrait vivre avec honneur. Il s'y trouverait à peu près à la portée des autres habitants. On ne lui trouverait point l'esprit singulier ni le caractère bizarre. Il passerait tout comme un autre et serait même distingué par sa gentillesse. Tu dis que les fondateurs des empires ont presque tous ignoré les arts. Je ne te nie pas que des peuples barbares n'aient pu, comme des torrents impétueux, se répandre sur la terre et couvrir de leurs armées féroces les royaumes les plus polissés. Mais prends-y garde, ils ont appris les arts ou les ont fait exercer aux peuples vaincus. Sans cela, leur puissance aurait passé comme le bruit du tonnerre et des tempêtes. Tu crains, dis-tu, que l'on invente quelque manière de destruction plus cruelle que celle qui est en usage. Non, si une si fatale invention venait à se découvrir, elle serait bientôt prohibée par le droit des gens. Et le consentement unanime des nations ensevelirait cette découverte. Il n'est point de l'intérêt des princes de faire des conquêtes par des pareilles voies. Ils doivent chercher des sujets et non pas des terres. Tu te plains de l'invention de la poudre et des bombes. Tu trouves étrange qu'il n'y ait plus de place imprenable. C'est-à-dire que tu trouves étrange que les guerres soient aujourd'hui terminées plus tôt qu'elles ne l'étaient autrefois. Tu dois avoir remarqué, en lisant les histoires, que depuis l'invention de la poudre, les batailles sont beaucoup moins sanglantes qu'elles ne l'étaient, parce qu'il n'y a presque plus de mêlées. Et quand il se serait trouvé quelque cas particulier où un art aurait été préjudiciable, doit-on pour cela le rejeter? Penses-tu, Rédi, que la religion que notre saint prophète a apportée du ciel soit pernicieuse parce qu'elle servira un jour à confondre les perfides chrétiens? Tu crois que les arts amollissent les peuples, et par là sont cause de la chute des empires. Tu parles de la ruine de celui des anciens Perses, qui fut l'effet de leur mollesse. Mais il s'en faut bien que cet exemple décide, puisque les Grecs, qui les vainquirent tant de fois et les subjuguèrent, cultivaient les arts avec infiniment plus de soin qu'eux. Quand on dit que les arts rendent les hommes efféminés, on ne parle pas du moins des gens qui s'y appliquent, puisqu'ils ne sont jamais dans l'oisiveté, qui, de tous les vices, est celui qui amollit le plus le courage. Il n'est donc question que de ceux qui en jouissent. Mais, comme dans un pays policé, ceux qui jouissent des commodités d'un art sont obligés d'en cultiver un autre, à moins de se voir réduits à une pauvreté honteuse, il suit que l'oisiveté et la mollesse sont incompatibles avec les arts. Paris est peut-être la ville du monde la plus sensuelle, et où l'on raffine le plus sur les plaisirs, mais c'est peut-être celle où l'on mène une vie plus dure. Pour qu'un homme vive délicieusement, il faut que 100 autres travaillent sans relâche. Une femme s'est mise dans la tête qu'elle devait paraître à une assemblée avec une certaine parure. Il faut que, dès ce moment, 50 artisans ne dorment plus et n'aient plus le loisir de boire et de manger. Elle commande, et elle est obéie plus promptement que ne serait notre monarque, parce que l'intérêt est le plus grand monarque de la terre. Cette ardeur pour le travail, cette passion de s'enrichir, passe de condition en condition, depuis les artisans jusqu'aux grands. Personne n'aime à être plus pauvre que celui qu'il vient de voir immédiatement au-dessous de lui. Vous voyez à Paris un homme qui a de quoi vivre jusqu'au jour du jugement, qui travaille sans cesse et court risque d'accourcir ses jours pour amasser, dit-il, de quoi vivre. Le même esprit gagne la nation. On n'y voit que travail et qu'industrie. Où est donc ce peuple efféminé dont tu parles tant? Je suppose, Rédi, qu'on ne souffrit dans un royaume que les arts absolument nécessaires à la culture des terres, qui sont pourtant en grand nombre, et qu'on en bannit tous ceux qui ne servent qu'à la volupté ou à la fantaisie. Je le soutiens. Cet art serait un des plus misérables qu'il y eût au monde. Quand les habitants auraient assez de courage pour se passer de tant de choses qu'ils doivent à leurs besoins, le peuple dépérirait tous les jours. Et l'État deviendrait si faible qu'il n'y aurait si petite puissance qui ne pût le conquérir. Il me serait aisé d'entrer dans un long détail et de te faire voir que les revenus des particuliers cesseraient presque absolument, et par conséquent, ceux du prince. Il n'y aurait presque plus de relations de faculté entre les citoyens. On verrait finir cette circulation de richesses et cette progression de revenus qui vient de la dépendance où sont les arts les uns des autres. Chaque particulier vivrait de sa terre et n'en retirerait que ce qu'il lui faut précisément pour ne pas mourir de faim. Mais comme ce n'est pas quelquefois la 20e partie des revenus d'un État, il faudrait que le nombre des habitants diminuât à proportion et qu'il n'en restât que la 20e partie. fait bien attention jusqu'où vont les revenus de l'industrie. Un fonds ne produit annuellement à son maître que la 20e partie de sa valeur. Mais, avec une pistole de couleur, un peintre fera un tableau qui lui en vaudra 50. On en peut dire de même des orfèvres, des ouvriers en laine, en soie, et de toutes sortes d'artisans. De tout ceci, on doit conclure, Reddy, que pour qu'un prince soit puissant, il faut que ses sujets vivent dans les délices. Il faut qu'il travaille à leur procurer toutes sortes de superfluités, avec autant d'attention que les nécessités de la vie. De Paris, le 14 de la lune de Chalval, 1717. Lettre 108. Rika à Ibn, à Smyrne. J'ai vu le jeune monarque. Sa vie est bien précieuse à ses sujets. Elle ne l'est pas moins à toute l'Europe, par les grands troubles que sa mort pourrait produire. Mais les rois sont comme les dieux, et pendant qu'ils vivent, on doit les croire immortels. Sa physionomie est majestueuse, mais charmante. Une belle éducation semble concourir avec un heureux naturel et promet déjà un grand prince. On dit que l'on ne peut jamais connaître le caractère des rois d'Occident jusqu'à ce qu'ils aient passé par les deux grandes épreuves de leur maîtresse et de leur confesseur. On verra bientôt l'un et l'autre travailler à se saisir de l'esprit de celui-ci, et il se livrera pour cela de grands combats. Car, sous un jeune prince, ces deux puissances sont toujours rivales. Mais elles se concilient et se réunissent sous un vieux. Sous un jeune prince, le dervi a un rôle bien difficile à soutenir. La force du roi fait sa faiblesse. Mais l'autre triomphe également de sa faiblesse et de sa force. Lorsque j'arrivais en France, je trouvais le feu roi absolument gouverné par les femmes. Et, cependant, dans l'âge où il était, je crois que c'était le monarque de la terre qui en avait le moins besoin. J'entendis un jour une femme qui disait « Il faut que l'on fasse quelque chose pour ce jeune colonel, sa valeur m'est connue, j'en parlerai au ministre. » Une autre disait « Il est surprenant que ce jeune abbé ait été oublié, il faut qu'il soit évêque, il est homme de naissance et je pourrai répondre de ses mœurs. » Il ne faut pas pourtant que tu t'imagines que celles qui tenaient ces discours fussent des favorites du prince. Elles ne lui avaient peut-être pas parlé deux fois en leur vie. Chose pourtant très facile à faire chez les princes européens. Mais c'est qu'il n'y a personne qui ait quelque emploi à la cour, dans Paris ou dans les provinces, qui n'ait une femme par les mains de laquelle passent toutes les grâces et quelquefois les injustices qu'il peut faire. Ces femmes ont toutes des relations les unes avec les autres et forment une espèce de république dont les membres toujours actifs se secourent et se servent mutuellement. C'est comme un nouvel état dans l'état. Et celui qui est à la cour, à Paris, dans les provinces, qui voit agir des ministres, des magistrats, des prélats, s'il ne connaît les femmes qui les gouvernent, est comme un homme qui voit bien une machine qui joue, mais qui n'en connaît point les ressorts. Crois-tu, Ibn, qu'une femme s'avise d'être la maîtresse d'un ministre pour coucher avec lui? Quelle idée! C'est pour lui présenter 5 ou 6 placés tous les matins, et la bonté de leur naturel paraît dans l'empressement qu'elles ont de faire du bien à une infinité de gens malheureux qui leur procurent 100 000 livres de rente. On se plaint en Perse de ce que le royaume est gouverné par 2 ou 3 femmes. C'est bien pis en France, où les femmes en général gouvernent et non seulement prennent en gros, mais même se partagent en détail toute l'autorité. De Paris, le dernier de la lune de Chalval, 1717. Lettre 109. Usbek à Il y a une espèce de livre que nous ne connaissons point en Perse et qui me paraissent ici fort à la mode. Ce sont les journaux. La paresse se sent flattée en les lisant. On est ravi de pouvoir parcourir 30 volumes en un quart d'heure. » Dans la plupart des livres, l'auteur n'a pas fait les compliments ordinaires que les lecteurs sont aux abois. Il les fait entrer à demi-mort dans une matière noyée au milieu d'une mer de paroles. Celui-ci veut s'immortaliser par un « in douze », celui-là par un « in quarto ». Un autre, qui a de plus belles inclinations, vise à l'in folio. Il faut donc qu'il étende son sujet à proportion, ce qu'il fait sans pitié, comptant pour rien la peine du pauvre lecteur qui se tue à réduire ce que l'auteur a pris tant de peine à amplifier. Je ne sais quel mérite il y a à faire de pareils ouvrages. J'en ferais bien autant si je voulais ruiner ma santé et un libraire. Le grand tort qu'ont les journalistes, c'est qu'ils ne parlent que des livres nouveaux, comme si la vérité était jamais nouvelle. Il me semble que, jusqu'à ce qu'un homme ait lu tous les livres anciens, il n'a aucune raison de leur préférer les nouveaux. Mais, lorsqu'il s'impose la loi de ne parler que des ouvrages encore tout chauds de la forge, il s'en impose un autre, qui est d'être très ennuyeux. Ils n'ont garde de critiquer les livres dont ils font les extraits, quelque raison qu'ils en aient. Et en effet, quel est l'homme assez hardi pour vouloir se faire 10 ou 12 ennemis tous les mois? La plupart des auteurs ressemblent aux poètes qui souffriront une volée de coups de bâton sans se plaindre. Mais qui, peu jaloux de leurs épaules, le sont si fort de leurs ouvrages qu'ils ne sauraient soutenir la moindre critique? Il faut donc bien se donner de garde de les attaquer par un endroit si sensible. Et les journalistes le savent bien. Ils font donc tout le contraire. Ils commencent par louer la matière qui est traitée. Première fadeur. De là, ils passent aux louanges de l'auteur. Louanges forcées. Car ils ont affaire à des gens qui sont encore en haleine, tout prêts à se faire raison, et à foudroyer à coups de plume un téméraire journaliste. De Paris, le 5 de la lune de Zilcadet, 1718. Lettre 110. Rica A. L'université de Paris est la fille aînée des rois de France, et très aînée, car elle a plus de 900 ans. Aussi rêve-t-elle quelquefois. On m'a conté qu'elle eut, il y a quelque temps, un grand démêlé avec quelques docteurs à l'occasion de la lettre Q, qu'elle voulait que l'on prononçât comme un K. La dispute s'échauffa si fort que quelques-uns furent dépouillés de leurs biens. Il fallut que le Parlement terminât le différend, et il accorda permission, par un arrêt solennel, à tous les sujets du roi de France de prononcer cette lettre à leur fantaisie. Il faisait beau voir les deux corps de l'Europe les plus respectables occupés à décider du sort d'une lettre de l'alphabet. Il semble, mon cher, que les têtes des plus grands hommes s'étrécissent lorsqu'elles sont assemblées, et que, là où il y a plus de sages, il y ait aussi moins de sagesse. Les grands corps s'attachent toujours si fort aux minuties, aux vains usages, que l'essentiel ne va jamais qu'après. J'ai ouï dire qu'un roi d'Aragon, ayant assemblé les états d'Aragon et de Catalogne, les premières séances s'employèrent à décider en quelle langue les délibérations seraient conçues. La dispute était vive, et les états se seraient rompus 1000 fois si l'on avait imaginé un expédient, qui était que la demande serait faite en langage catalan et la réponse en aragonais. De Paris, le 25 de la lune de Zilager, 1718. Lettre 111. Rica A. Le rôle d'une jolie femme est beaucoup plus grave que l'on ne pense. Il n'y a rien de plus sérieux que ce qui se passe le matin à sa toilette, au milieu de ses domestiques. Un général d'armée n'emploie pas plus d'attention à placer sa droite ou son corps de réserve qu'elle en met à poster une mouche qui peut manquer, mais dont elle espère ou prévoit le succès. Quelle gêne d'esprit, quelle attention pour concilier sans cesse les intérêts de deux rivaux, pour paraître neutre à tous les deux, pendant qu'elle est livrée à l'un et à l'autre, et se rendre médiatrice sur tous les sujets de plainte qu'elle leur donne. Quelle occupation pour faire succéder et renaître les parties de plaisir et prévenir tous les accidents qui pourraient les rompre. Avec tout cela, la plus grande peine n'est pas de se divertir, c'est de le paraître. Ennuyez-les tant que vous voudrez, elles vous le pardonneront, pourvu que l'on puisse croire qu'elles se sont réjouies. Je fus, il y a quelques jours, d'un souper que des femmes firent à la campagne. Dans le chemin, elles disaient sans cesse « Au moins, il faudra bien rire et bien nous divertir. » Nous nous trouvâmes assez mal assortis, et par conséquent assez sérieux. « Il faut avouer, dit une de ces femmes, que nous nous divertissons bien. Ne sommes-nous pas de bonne humeur ?»« Oui, lui répondis-je en bâillant, je crois que je crèverai à force de rire. » Cependant, la tristesse triomphait toujours des réflexions, et quant à moi, je me sentis conduit de bâillement en bâillement dans un sommeil léthargique qui finit tous mes plaisirs. De Paris, le 11 de la lune de Maharram, 1718. Lettre 112. Usbek A. Le règne du feu roi a été si long que la fin en avait fait oublier le commencement. C'est aujourd'hui la mode de ne s'occuper que des événements arrivés dans sa minorité, et on ne lit plus que les mémoires de ces temps-là. Voici le discours qu'un des généraux de la ville de Paris prononça dans un conseil de guerre, et j'avoue que je n'y comprends pas grand-chose. Messieurs, quoique nos troupes aient été repoussées avec perte, je crois qu'il nous sera facile de réparer cet échec. J'ai 6 couplets de chansons tout prêts à mettre au jour, qui, je m'assure, remettront toutes choses dans l'équilibre. J'ai fait choix de quelques voix très nettes, qui, sortant de la cavité de certaines poitrines très fortes, émouvront merveilleusement le peuple. Ils sont sur un air qui a fait jusqu'à présent un effet tout particulier. Si cela ne suffit pas, nous ferons paraître une estampe qui fera voir Mazarin pendu. Par bonheur pour nous, il ne parle pas bien français, et il l'écorche tellement qu'il n'est pas possible que ses affaires ne déclinent. Nous ne manquons pas de faire bien remarquer au peuple le ton ridicule dont il prononce. Nous relevâmes, il y a quelques jours, une faute de grammaire si grossière qu'on en fit des farces par tous les carrefours. J'espère qu'avant qu'il soit 8 jours, le peuple fera du nom de Mazarin un mot générique pour exprimer toutes les bêtes de somme et celles qui servent à tirer. Depuis notre défaite, notre musique l'a si furieusement vexé sur le péché originel que pour ne pas voir ses partisans réduits à la moitié, il a été obligé de renvoyer toutes ses pages. Ranimez-vous donc, reprenez courage, et soyez sûr que nous lui ferons repasser les monts à coups de sifflet. De Paris, le 4 de la lune de Chaban, 1718. Lettre 113. Rédi à Usbek, à Paris. Pendant le séjour que je fais en Europe, je lis les historiens anciens et modernes. Je compare tous les temps. J'ai du plaisir à les voir passer, pour ainsi dire, devant moi. Et j'arrête surtout mon esprit à ces grands changements qui ont rendu les âges si différents des âges, et la terre si peu semblable à elle-même. Tu n'as peut-être pas fait attention à une chose qui cause tous les jours ma surprise. Comment le monde est-il si peu peuplé en comparaison de ce qu'il était autrefois? Comment la nature a-t-elle pu perdre cette prodigieuse fécondité des premiers temps? Serait-elle déjà dans sa vieillesse? Et tomberait-elle de langueur? J'ai resté plus d'un an en Italie, où je n'ai vu que le débris de cette ancienne Italie, si fameuse autrefois. Quoique tout le monde habite les villes, elles sont entièrement désertes et dépeuplées. Il semble qu'elle ne subsiste encore que pour marquer le lieu où étaient ces cités puissantes dont l'histoire a tant parlé. Il y a des gens qui prétendent que la seule ville de Rome contenait autrefois plus de peuples qu'un grand royaume de l'Europe n'en a aujourd'hui. Il y a eu tels citoyens romains qui avaient 10 et même 20 000 esclaves, sans compter ceux qui travaillaient dans les maisons de campagne. Et comme on y comptait 400 ou 500 000 citoyens, on ne peut fixer le nombre de ses habitants sans que l'imagination ne se révolte. Il y avait autrefois dans la Sicile de puissants royaumes et des peuples nombreux qui en ont disparu depuis. Cette île n'a plus rien de considérable que ses volcans. La Grèce est si déserte qu'elle ne contient pas la 100e partie de ses anciens habitants. L'Espagne, autrefois si remplie, ne fait voir aujourd'hui que des campagnes inhabitées. Et la France n'est rien en comparaison de cette ancienne Gaule dont parle César. Les pays du Nord sont fort dégarnis, et il s'en faut bien que les peuples y soient, comme autrefois, obligés de se partager et d'envoyer dehors, comme des essaims, des colonies et des nations entières chercher de nouvelles demeures. La Pologne et la Turquie en Europe n'ont presque plus de peuple. On ne saurait trouver dans l'Amérique la 50e partie des hommes qui y formaient de si grands empires. L'Asie n'est guère en meilleur état. Cette Asie mineure, qui contenait tant de puissantes monarchies et un nombre si prodigieux de grandes villes, n'en a plus que 2 ou 3. Quant à la Grande Asie, celle qui est soumise aux Turcs, n'est pas plus peuplée. Et pour celle qui est sous la domination de nos rois, si on la compare à l'état florissant où elle était autrefois, on verra qu'elle n'a qu'une petite partie des habitants qui y étaient, sans nombre, du temps d'Xerxès et des Darius. Quant aux petits états qui sont autour de ces grands empires, ils sont réellement déserts. Tels sont les royaumes d'Irimète, de Circassie et de Guriel. Ces princes, avec de vastes états, comptent à peine 50 000 sujets. L'Égypte n'a pas moins manqué que les autres pays. Enfin, je parcours la terre et je n'y trouve que des délabrements. Je crois la voir sortir des ravages de la peste et de la famine. L'Afrique a toujours été si inconnue qu'on ne peut en parler si précisément que des autres parties du monde. Mais, à ne faire attention qu'aux côtes de la Méditerranée, connues de tout temps, on voit qu'elle a extrêmement déchu de ce qu'elle était sous les Carthaginois et les Romains. Aujourd'hui, ces princes sont si faibles que ce sont les plus petites puissances du monde. Après un calcul aussi exact qu'il peut l'être dans ces sortes de choses, j'ai trouvé qu'il y a à peine sur la terre la 10e partie des hommes qui y étaient dans les anciens temps. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'elle se dépeuple tous les jours, et si cela continue, dans 10 siècles, elle ne sera qu'un désert. Voilà, mon cher Usbek, la plus terrible catastrophe qui soit jamais arrivée dans le monde. Mais à peine s'en est-on aperçu, parce qu'elle est arrivée insensiblement et dans le cours d'un grand nombre de siècles. Ce qui marque un vice intérieur, un venin secret et caché, une maladie de langueur qui afflige la nature humaine. De Venise, le 10 de la lune de Régeb, 1718. Lettre 114. Usbek à Rédi, à Venise. Le monde, mon cher Rédi, n'est point incorruptible. Les cieux même ne le sont pas. Les astronomes sont des témoins oculaires de leurs changements, qui sont des effets bien naturels du mouvement universel de la matière. La Terre est soumise, comme les autres planètes, aux lois des mouvements. Elle souffre au-dedans d'elle un combat perpétuel de ses principes. La mer et le continent semblent être dans une guerre éternelle. Chaque instant produit de nouvelles combinaisons. Les hommes, dans une demeure si sujette au changement, sont dans un état aussi incertain. 100 000 causes peuvent agir, capables de les détruire, et à plus forte raison, d'augmenter ou de diminuer leur nombre. Je ne te parlerai pas de ces catastrophes particulières, si communes chez les historiens, qui ont détruit des villes et des royaumes entiers. Il y en a de générales, qui ont mis bien des fois le genre humain à deux doigts de sa perte. Les histoires sont pleines de ces pestes universelles qui ont tour à tour désolé l'univers. Elles parlent d'une, entre autres, qui fut si violente qu'elle brûla jusqu'à la racine des plantes et se fit sentir dans tout le monde connu jusqu'à l'empire du Cathay. Un degré de plus de corruption aurait peut-être dans un seul jour détruit toute la nature humaine. Il n'y a pas deux siècles que la plus honteuse de toutes les maladies se fit sentir en Europe, en Asie et en Afrique. Elle fit dans très peu de temps des effets prodigieux. C'était fait des hommes si elle avait continué ses progrès avec la même furie. Accablés de maux dès leur naissance, incapables de soutenir le poids des charges de la société, ils auraient péri misérablement. Qu'aurait-ce été si le venin eût été un peu plus exalté? Et il le serait devenu sans doute si l'on avait été assez heureux pour trouver un remède aussi puissant que celui qu'on a découvert. Peut-être que cette maladie, attaquant les parties de la génération, aurait attaqué la génération même. Mais pourquoi parler de la destruction qui aurait pu arriver au genre humain? N'est-elle pas arrivée, en effet? Et le déluge ne le réduisit-il pas à une seule famille? Il y a des philosophes qui distinguent deux créations, celle des choses et celle de l'homme. Ils ne peuvent comprendre que la matière et les choses créées n'aient que 6 000 ans, que Dieu ait différé pendant toute l'éternité ses ouvrages et n'ait usé que d'hier de sa puissance créatrice. Serait-ce parce qu'il ne l'aurait pas pu ou parce qu'il ne l'aurait pas voulu? Mais s'il ne l'a pas pu dans un temps, il ne l'a pas pu dans l'autre. C'est donc parce qu'il ne l'a pas voulu. Mais comme il n'y a point de succession dans Dieu, si l'on admet qu'il ait voulu quelque chose une fois, il l'a voulu toujours et dès le commencement. Cependant, tous les historiens nous parlent d'un premier père. Ils nous font voir la nature humaine naissante. N'est-il pas naturel de penser qu'Adam fut sauvé d'un malheur commun, comme Noé le fut du déluge? Et que ces grands événements ont été fréquents sur la terre depuis la création du monde. Mais toutes les destructions ne sont pas violentes. Nous voyons plusieurs parties de la terre se lasser de fournir à la subsistance des hommes. Que savons-nous si la terre entière n'a pas des causes générales, lentes et imperceptibles, de lassitude? J'ai été bien aise de te donner ces idées générales avant de répondre plus particulièrement à ta lettre sur la diminution des peuples arrivée depuis 17 à 18 siècles. Je te ferai voir, dans une lettre suivante, qu'indépendamment des causes physiques, il y en a des morales qui ont produit cet effet. De Paris, le 8 de la lune de Chaban, 1718. Lettre 115. Usbek au même. Tu cherches la raison pourquoi la terre est moins peuplée qu'elle ne l'était autrefois. Et, si tu y fais bien attention, tu verras que la grande différence vient de celle qui est arrivée dans les mœurs. Depuis que la religion chrétienne et la mahométane ont partagé le monde romain, les choses sont bien changées. Il s'en faut de beaucoup que ces deux religions soient aussi favorables à la propagation de l'espèce que celle de ses maîtres de l'univers. Dans cette dernière, la polygamie était défendue, et en cela, elle avait un très grand avantage sur la religion mahométane. Le divorce y était permis, ce qui lui en donnait un autre, non moins considérable, sur la chrétienne. Je ne trouve rien de si contradictoire que cette pluralité des femmes permise par le Saint Alcoran et l'ordre de les satisfaire, donné dans le même livre. « Voyez vos femmes, dit le prophète, parce que vous leur êtes nécessaires comme leurs vêtements, et qu'elles vous sont nécessaires comme vos vêtements. Voilà un précepte qui rend la vie d'un véritable musulman bien laborieuse. Celui qui a les quatre femmes établies par la loi, ou seulement autant de concubines ou d'esclaves, ne doit-il pas être accablé de tant de vêtements ? Vos femmes sont vos labourages, dit encore le prophète. Approchez-vous donc de vos labourages. Faites du bien pour vos âmes, et vous le trouverez un jour. Je regarde un bon musulman comme un athlète, destiné à combattre sans relâche, mais qui, bientôt faible et accablé de ses premières fatigues, languit dans le champ même de la victoire, et se trouve, pour ainsi dire, enseveli sous ses propres triomphes. La nature agit toujours avec lenteur, et pour ainsi dire, avec épargne. Ses opérations ne sont jamais violentes. Jusque dans ses productions, elle veut de la tempérance. Elle ne va jamais qu'avec règles et mesures. Si on la précipite, elle tombe bientôt dans la langueur. Elle emploie toute la force qui lui reste à se conserver, perdant absolument sa vertu productrice et sa puissance générative. C'est dans cet état de défaillance que nous met toujours ce grand nombre de femmes plus propres à nous épuiser qu'à nous satisfaire. Il est très ordinaire parmi nous de voir un homme dans un sérail prodigieux avec un très petit nombre d'enfants. Ces enfants même sont la plupart du temps faibles et malsains et se sentent de la langueur de leur père. Ce n'est pas tout. Ces femmes, obligées à une continence forcée, ont besoin d'avoir des gens pour les garder, qui ne peuvent être que des eunuques. La religion, la jalousie et la raison même ne permettent pas d'en laisser approcher d'autres. Ces gardiens doivent être en grand nombre, soit afin de maintenir la tranquillité au-dedans, parmi les guerres que ces femmes se font sans cesse, soit pour empêcher les entreprises du dehors. Ainsi, un homme qui a 10 femmes ou concubines n'a pas trop d'autant d'eunuques pour les garder. Mais quelle perte pour la société que ce grand nombre d'hommes morts dès leur naissance! Quelle dépopulation ne doit-il pas s'en suivre? Les filles esclaves qui sont dans le sérail, pour servir avec les eunuques ce grand nombre de femmes, y vieillissent presque toujours dans une affligeante virginité. Elles ne peuvent pas se marier pendant qu'elles y restent, et leur maîtresse, une fois accoutumée à elles, ne s'en défend presque jamais. Voilà comment un seul homme occupe à ses plaisirs tant de sujets de l'un et de l'autre sexe, les fait mourir pour l'État, et les rend inutiles à la propagation de l'espèce. Constantinople et Ispahan sont les capitales des 2 plus grands empires du monde. C'est là que tout doit aboutir, et que les peuples, attirés de 1000 manières, se rendent de toutes parts. Cependant, elles périssent d'elles-mêmes, et elles seraient bientôt détruites, si les souverains n'y faisaient venir, presque à chaque siècle, des nations entières pour les repeupler. J'épuiserai ce sujet dans une autre lettre. De Paris, le 13 de la lune de Chaban, 1718. Lettre 116. Usbek au même. Les Romains n'avaient pas moins d'esclaves que nous. Ils en avaient même plus. Mais ils en faisaient un meilleur usage. Bien loin d'empêcher, par des voies forcées, la multiplication de ces esclaves, ils la favorisaient au contraire de tout leur pouvoir. Ils les associaient le plus qu'ils pouvaient par des espèces de mariages. Par ce moyen, ils remplissaient leur maison de domestiques de tous les sexes, de tous les âges, et l'état d'un peuple innombrable. Ces enfants, qui faisaient à la longue la richesse d'un maître, naissaient sans nombre autour de lui. Il était seul chargé de leur nourriture et de leur éducation. Les pères, libres de ce fardeau, suivaient uniquement le penchant de la nature et multipliaient, sans craindre une trop nombreuse famille. Je t'ai dit que, parmi nous, tous les esclaves sont occupés à garder nos femmes, et à rien de plus. Qu'ils sont, à l'égard de l'État, dans une perpétuelle léthargie. de manière qu'il faut restreindre à quelques hommes libres, à quelques chefs de famille, la culture des arts et des terres, lesquels même s'y donnent le moins qu'ils peuvent. Il n'en était pas de même chez les Romains. La République se servait avec un avantage infini de ce peuple d'esclaves. Chacun d'eux avait son pécule, qu'il possédait aux conditions que son maître lui imposait. Avec ce pécule, il travaillait et se tournait du côté où le portait son industrie. Celui-ci faisait valoir la banque, celui-là se donnait au commerce de la mer. L'un vendait des marchandises en détail, l'autre s'appliquait à quelque art mécanique, ou bien affermait et faisait valoir des terres. Mais il n'y en avait aucun qui ne s'attachât de tout son pouvoir à faire profiter ce pécule, qui lui procurait en même temps l'aisance dans la servitude présente et l'espérance d'une liberté future. Cela faisait un peuple laborieux, animait les arts et l'industrie. Ces esclaves, devenus riches par leurs soins et leur travail, se faisaient affranchir et devenaient citoyens. La République se réparait sans cesse et recevait dans son sein de nouvelles familles à mesure que les anciennes se détruisaient. J'aurai peut-être, dans mes lettres suivantes, occasion de te prouver que plus il y a d'hommes dans un État, plus le commerce y fleurit. Je prouverai aussi facilement que, plus le commerce y fleurit, plus le nombre des hommes y augmente. Ces deux choses s'entraident et se favorisent nécessairement. Si cela est, combien ce nombre prodigieux d'esclaves, toujours laborieux, devait-il s'accroître et s'augmenter? L'industrie et l'abondance les faisaient naître, et eux, de leur côté, faisaient naître l'abondance et l'industrie. De Paris, le 16 de la lune de Chaban, 1718. Lettre 117. Usbek au même. Nous avons, jusqu'ici, parlé des pays mahométans, et cherché la raison pourquoi ils sont moins peuplés que ceux qui étaient soumis à la domination des Romains. Examinons à présent ce qui a produit cet effet chez les chrétiens. Le divorce était permis dans la religion païenne, et il fut défendu aux chrétiens. Ce changement, qui parut d'abord de si petites conséquences, eut insensiblement des suites terribles, et telles qu'on peut à peine les croire. On ôta non seulement toute la douceur du mariage, mais aussi l'on donna atteinte à sa fin. En voulant resserrer ses nœuds, on les relâcha, et au lieu d'unir les cœurs, comme on le prétendait, on les sépara pour jamais. Dans une action si libre, et où le cœur doit avoir tant de part, on mit la gêne, la nécessité et la fatalité du destin même. On compta pour rien les dégoûts, les caprices et l'insociabilité des humeurs. On voulut fixer le cœur, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus variable et de plus inconstant dans la nature. On attacha, sans retour et sans espérance, des gens accablés l'un de l'autre, et presque toujours mal assortis. Et l'on fit comme ces tyrans qui faisaient lier des hommes vivants à des corps morts. Rien ne contribuait plus à l'attachement mutuel que la faculté du divorce. Un mari et une femme étaient portés à soutenir patiemment les peines domestiques, sachant qu'ils étaient maîtres de les faire finir, et ils gardaient souvent ce pouvoir en main toute leur vie sans en user, par cette seule considération qu'ils étaient libres de le faire. Il n'en est pas de même des chrétiens, que leur peine présente désespère pour l'avenir. Ils ne voient dans les désagréments du mariage que leur durée, et pour ainsi dire, leur éternité. De là viennent les dégoûts, les discordes, les mépris, et c'est autant de perdu pour la postérité. À peine a-t-on 3 ans de mariage qu'on en néglige l'essentiel. On passe ensemble 30 ans de froideur. Il se forme des séparations intestines aussi fortes et peut-être plus pernicieuses que si elles étaient publiques. Chacun vit et reste de son côté. Et tout cela au préjudice des races futures. Bientôt un homme, dégoûté d'une femme éternelle, se livrera aux filles de joie. Commerce honteux et si contraire à la société, lequel, sans remplir l'objet du mariage, n'en représente tout au plus que les plaisirs. Si, de deux personnes ainsi liées, il y en a une qui n'est pas propre au dessein de la nature et à la propagation de l'espèce, soit par son tempérament, soit par son âge, elle ensevelit l'autre avec elle, et la rend aussi inutile qu'elle l'est elle-même. Il ne faut donc pas s'étonner si l'on voit chez les chrétiens tant de mariages fournir un si petit nombre de citoyens. Le divorce est aboli. Les mariages mal assortis ne se raccommodent plus. Les femmes ne passent plus, comme chez les Romains, successivement dans les mains de plusieurs maris, qui en tiraient dans le chemin le meilleur parti qu'il était possible. J'ose le dire. Si, dans une république comme Lacédémone, où les citoyens étaient sans cesse gênés par des lois singulières et subtiles, et dans laquelle il n'y avait qu'une famille, qui était la République, il avait été établi que les maris changeassent de femme tous les ans, il en serait né un peuple innombrable. Il est assez difficile de faire bien comprendre la raison qu'a porté les chrétiens à abolir le divorce. Le mariage, chez toutes les nations du monde, est un contrat susceptible de toutes les conventions, et on n'en a dû bannir que celles qui auraient pu en affaiblir l'objet. Mais les chrétiens ne le regardent pas dans ce point de vue. Aussi ont-ils bien de la peine à dire ce que c'est. Ils ne le font pas consister dans le plaisir des sens. Au contraire, comme je te l'ai déjà dit, il semble qu'ils veulent l'en bannir autant qu'ils peuvent. Mais c'est une image, une figure et quelque chose de mystérieux que je ne comprends point. De Paris, le 19 de la lune de Chaban, 1718. Lettre 118, Usbek au même. La prohibition du divorce n'est pas la seule cause de la dépopulation des pays chrétiens. Le grand nombre d'eunuques qu'ils ont parmi eux n'en est pas une moins considérable. Je parle des prêtres et des dervis de l'un et de l'autre sexe, qui se vouent à une continence éternelle. C'est chez les chrétiens la vertu par excellence. En quoi je ne les comprends pas, ne sachant ce que c'est qu'une vertu dont il ne résulte rien. Je trouve que leurs docteurs se contredisent manifestement quand ils disent que le mariage est saint et que le célibat, qui lui est opposé, l'est encore davantage. Sans compter qu'en fait de préceptes et de dogmes fondamentaux, le bien est toujours le mieux. Le nombre de gens faisant profession de célibat est prodigieux. Les pères y condamnaient autrefois les enfants dès le berceau. Aujourd'hui, ils s'y vouent eux-mêmes dès l'âge de 14 ans, ce qui revient à peu près à la même chose. Ce métier de continence a anéanti plus d'hommes que les pestes et les guerres les plus sanglantes n'ont jamais fait. On voit dans chaque maison religieuse une famille éternelle où il ne naît personne et qui s'entretient aux dépens de toutes les autres. Ces maisons sont toujours ouvertes comme autant de gouffres où s'ensevelissent les races futures. Cette politique est bien différente de celle des Romains qui établissaient des lois pénales contre ceux qui se refusaient aux lois du mariage et voulaient jouir d'une liberté si contraire à l'utilité publique. Je ne te parle ici que des pays catholiques. Dans la religion protestante, tout le monde est en droit de faire des enfants. Elle ne souffre ni prêtre ni dervis. Et si, dans l'établissement de cette religion qui ramenait tout au premier temps, ses fondateurs n'avaient été accusés sans cesse d'intempérance, il ne faut pas douter qu'après avoir rendu la pratique du mariage universel, ils n'en eussent encore adouci le joug et achevé d'ôter toute la barrière qui sépare, en ce point, le Nazaréen et Mahomet. Mais, quoi qu'il en soit, il est certain que la religion donne aux protestants un avantage infini sur les catholiques. J'ose le dire. Dans l'état présent où est l'Europe, il n'est pas possible que la religion catholique y subsiste 500 ans. Avant l'abaissement de la puissance d'Espagne, les catholiques étaient beaucoup plus forts que les protestants. Ces derniers sont peu à peu parvenus à un équilibre. Les protestants deviendront tous les jours plus riches et plus puissants, et les catholiques plus faibles. Les pays protestants doivent être et sont réellement plus peuplés que les catholiques. D'où il suit, premièrement, que les tribus y sont plus considérables parce qu'ils augmentent à proportion du nombre de ceux qui les paient. Secondement, que les terres y sont mieux cultivées. Enfin, que le commerce y fleurit davantage parce qu'il y a plus de gens qui ont une fortune à faire et qu'avec plus de besoins, on y a plus de ressources pour les remplir. Quand il n'y a que le nombre de gens suffisant pour la culture des terres, il faut que le commerce périsse. Et lorsqu'il n'y a que celui qui est nécessaire pour entretenir le commerce, il faut que la culture des terres manque. C'est-à-dire, il faut que tous les deux tombent en même temps, parce que l'on ne s'attache jamais à l'un que ce ne soit aux dépens de l'autre. Quant aux pays catholiques, non seulement la culture des terres y est abandonnée, mais même l'industrie y est pernicieuse. Elle ne consiste qu'à apprendre 5 ou 6 mots d'une langue morte. Dès qu'un homme a cette provision par devers lui, il ne doit plus s'embarrasser de sa fortune. Il trouve dans le cloître une vie tranquille qui, dans le monde, lui aurait coûté des sueurs et des peines. Ce n'est pas tout. Les dervis ont en leurs mains presque toutes les richesses de l'État. C'est une société de gens avares qui prennent toujours et ne rendent jamais. Ils accumulent sans cesse des revenus pour acquérir des capitaux. Tant de richesses tombent, pour ainsi dire, en paralysie. Plus de circulation, plus de commerce, plus d'art, plus de manufacture. Il n'y a point de prince protestant qui ne lève sur ses peuples beaucoup plus d'impôts que le pape n'enlève sur ses sujets. Cependant, ces derniers sont pauvres, pendant que les autres vivent dans l'opulence. Le commerce ranime tout chez les uns, et le monachisme porte la mort partout chez les autres. De Paris, le 26 de la lune de Chaban, 1718. Lettre 119, Usbek au même. Nous n'avons plus rien à dire de l'Asie et de l'Europe. Passons à l'Afrique. On ne peut guère parler que de ses côtes, parce qu'on ne connaît pas l'intérieur. Celles de Barbarie, où la religion mahométane est établie, ne sont plus si peuplées qu'elles étaient du temps des Romains, par les raisons que je t'ai déjà dites. Quant aux côtes de Guinée, elles doivent être furieusement dégarnies depuis 200 ans que les petits rois ou chefs des villages vendent leurs sujets aux princes de l'Europe pour les porter dans leurs colonies en Amérique. Ce qu'il y a de singulier, c'est que cette Amérique, qui reçoit tous les ans de nouveaux habitants, est elle-même déserte et ne profite point des pertes continuelles de l'Afrique. Ces esclaves, qu'on transporte dans un autre climat, y périssent à milliers, et les travaux des mines où l'on occupe sans cesse et les naturels du pays et les étrangers, les exhalaisons malignes qui en sortent, le vif argent dont il faut faire un continuel usage, les détruisent sans ressources. Il n'y a rien de si extravagant que de faire périr un nombre innombrable d'hommes pour tirer du fond de la terre l'or et l'argent. Ces métaux, de même absolument inutiles, et qui ne sont des richesses que parce qu'on les a choisies pour en être les signes. De Paris, le dernier de la lune de Chaban, 1718. Lettre 120. Usbek au même. La fécondité d'un peuple dépend quelquefois des plus petites circonstances du monde, de manière qu'il ne faut souvent qu'un nouveau tour dans son imagination pour le rendre beaucoup plus nombreux qu'il n'était. Les Juifs, toujours exterminés et toujours renaissants, ont réparé leurs pertes et leurs destructions continuelles par cette seule espérance qu'ont parmi eux toutes les familles d'y voir naître un roi puissant qui sera le maître de la terre. Les anciens rois de Perse n'avaient tant de milliers de sujets qu'à cause de ce dogme de la religion des mages, que les actes les plus agréables à Dieu que les hommes puissent faire, c'était de faire un enfant, labourer un champ et planter un arbre. Si la Chine a dans son sein un peuple si prodigieux, cela ne vient que d'une certaine manière de penser. Car, comme les enfants regardent leurs pères comme des dieux, qu'ils les respectent comme tels dès cette vie, qu'ils les honorent après leur mort par des sacrifices, dans lesquels ils croient que leurs âmes, anéanties dans le tien, reprennent une nouvelle vie, chacun est porté à augmenter une famille si soumise dans cette vie et si nécessaire dans l'autre. D'un autre côté, les pays des Mahométans deviennent tous les jours déserts à cause d'une opinion qui, toute sainte qu'elle est, ne laisse pas d'avoir des effets très pernicieux lorsqu'elle est enracinée dans les esprits. Nous nous regardons comme des voyageurs qui ne doivent penser qu'à une autre patrie. Les travaux utiles et durables, les soins pour assurer la fortune de nos enfants, les projets qui tendent au-delà d'une vie courte et passagère, nous paraissent quelque chose d'extravagant. Tranquilles pour le présent, sans inquiétude pour l'avenir, nous ne prenons la peine ni de réparer les édifices publics, ni de défricher les terres incultes, ni de cultiver celles qui sont en état de recevoir nos soins. Nous vivons dans une insensibilité générale et nous laissons tout faire à la Providence. C'est un esprit de vanité qui a établi chez les Européens l'injuste droit d'aînesse, si défavorable à la propagation en ce qu'il porte l'attention d'un père sur un seul de ses enfants et détourne ses yeux de tous les autres. En ce qu'il l'oblige, pour rendre solide la fortune d'un seul, de s'opposer à l'établissement de plusieurs. Enfin, en ce qu'il détruit l'égalité des citoyens qui en fait toute l'opulence. De Paris, le 4 de la lune de Ramazan, 1718. Lettre 121, Usbek au même. Les pays habités par les sauvages sont ordinairement peu peuplés, par l'éloignement qu'ils ont presque tous pour le travail et la culture de la terre. Cette malheureuse aversion est si forte que lorsqu'ils font quelque imprécation contre quelqu'un de leurs ennemis, ils ne lui souhaitent autre chose que d'être réduits à labourer un champ, croyant qu'il n'y a que la chasse et la pêche qui soient un exercice noble et digne d'eux. Mais, comme il y a souvent des années où la chasse et la pêche rendent très peu, ils sont désolés par des famines fréquentes. Sans compter qu'il n'y a pas de pays si abondant en gibier et en poisson qu'il puisse donner la subsistance à un grand peuple, parce que les animaux fuient toujours les endroits trop habités. D'ailleurs, les bourgades de sauvages, au nombre de 200 ou 300 habitants, détachées les unes des autres, ayant des intérêts aussi séparés que ceux de deux empires, ne peuvent pas se soutenir parce qu'elles n'ont pas la ressource des grands États, dont toutes les parties se répondent et se secourent mutuellement. Il y a chez les sauvages une autre coutume qui n'est pas moins pernicieuse que la première. C'est la cruelle habitude où sont les femmes de se faire avorter, afin que leur grossesse ne les rende pas désagréables à leur mari. Il y a ici des lois terribles contre ce désordre. Elles vont jusqu'à la fureur. Toute fille qui n'a point été déclarée sa grossesse au magistrat est punie de mort si son fruit périt. La pudeur et la honte, les accidents même, ne l'excusent pas. De Paris, le 9 de la lune de Ramazan, 1718.